baisser un petit peu. Oui, je vais le poser là, parce que sinon je suis capable de les toucher sans le vouloir. Frères et sœurs, merci de m'accueillir à nouveau pour non seulement ce temps de culte, mais pour le week-end. Toujours avec beaucoup de joie et de plaisir que je viens servir un peu le Seigneur au milieu de vous, avec la joie de vous voir, de vous découvrir au fil des mois, tout doucement, les visages et les noms finissent par se rejoindre. Voilà. Et alors, j'aimerais tout d'abord vous dire combien notre Dieu est fidèle. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint jamais ne nous abandonnent. Si cette année un bras de mer vous sépare de l'espérance, son souffle tracera une route. Si vous êtes affamé, la manne, il vous la donnera. Et si vous êtes assoiffé, du rocher jaillira une eau abondante. C'est pourquoi, frères et sœurs, je ne sais pas si cette année événementiellement sera bonne. Je ne sais pas quelles seront les circonstances de cette année. Mais néanmoins, je sais que cette année sera bénie, parce que Dieu est fidèle. Et c'est pour ça que je me permets de vous souhaiter, dans cet esprit-là, une bonne année, dans cette assurance-là. Voilà, j'ai eu la joie ce matin de participer une nouvelle fois, d'être présent dans le temps de prière qui prépare, ouvre presque, d'une certaine manière, il fait déjà partie de ce temps de culte. Et ce temps de prière se nourrit d'un psaume. Vous savez que prier est un besoin fondamental. C'est le besoin de tout être humain. Certains en ont conscience, d'autres non. Et moi, souvent, même des chrétiens m'ont dit « mais je ne sais pas prier ». D'ailleurs, les disciples demandent à Jésus « apprends-nous à prier ». Et puis l'apôtre Paul, lui, fait le constat qu'il y a des circonstances dans lesquelles nous ne savons pas ce qu'il est juste de demander. Et il nous dit que là, l'Esprit nous est donné et que l'Esprit vient pallier à notre faiblesse. Il y a une dimension essentielle de la prière et c'est ce qui est vécu à 9h15 chaque dimanche. C'est qu'est-ce qui nourrit notre prière ? Héritière de la prière juive, la prière chrétienne se nourrit de la Bible et elle se nourrit en particulier des psaumes. Mais alors là, frères et sœurs, attention, Nicolas l'a un petit peu dit comme ça tout à l'heure, pas dans ces termes, mais il y avait un petit peu de ça. Prier est dangereux. C'est dangereux de prier. C'est dangereux au regard peut-être de notre passivité. C'est dangereux pour ce petit confort du conformisme où les choses sont ce qu'elles sont et elles ne bougent pas. Prier nous change, prier nous transforme, prier épure notre foi. Et puis, je ne suis pas sûr qu'on aime toujours être bousculé, être changé, être transformé. Mais voilà, c'est cela la prière, et c'est pour ça que ce matin, je vous invite à prendre le risque. Allez, mettez des bémols hein, quand même dessus, mettez des petites parenthèses, mais à prendre le risque de prier avec le psaume 133. C'est un très court psaume, c'est un des tout plus courts de la Bible, qui appartient à une série de 15. Alors, si vous avez une Bible sous les yeux, vous allez voir, ils ont tous un titre, c'est pas tout à fait un titre, une espèce d'intitulé. Alors, selon les traductions, c'est « Chant des montées »,« Chant des degrés », »,« Chant de pèlerinage ». Les traductions qui s'éloignent du texte pour essayer de donner le sens, quelquefois disent « chant pour ceux qui montent à Jérusalem ». Effectivement, ces 15 psaumes étaient, on en est à peu près sûr, chantés lors de l'arrivée des pèlerins israélites à Jérusalem, qui venaient, selon la recommandation de Moïse, très souvent autour de la Pâque, venaient une fois de temps à autre, une année ou l'autre, célébrer la Pâque à Jérusalem. Alors, ayant conscience que ces gens venaient, bon, peut-être certains venaient de pas trop loin, mais un certain nombre venaient de loin. Ils venaient d'Alexandrie, ils venaient de Rome, ils venaient de Corinthe, ils venaient de Thessalonique. Souvenez-vous, lors de la Pentecôte, tous ces, entre guillemets, étrangers, tous ces juifs étrangers qui étaient là et qui parlaient toutes sortes de langues, il y avait des gens de tout le bassin méditerranéen qui faisaient ce pèlerinage. Et voilà, c'était un voyage fatigant, c'était un voyage dangereux. Attention, oubliez, hein, il n'y avait pas de bus climatisé, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas de trottinette électrique, il n'y avait pas de vélo, il n'y avait même pas vraiment des chaussures de marche. Tous ces pèlerinages étaient dangereux, incertains, fatigants. Mais là, ils arrivent à Jérusalem, ils arrivent au temple et ils chantent. Alors, ils chantent avec les chorales du temple qui sont là, mais ils chantent l'aboutissement de leur pèlerinage. Et voici donc un des chants, c'est un des chants de tout à fait l'avant, c'est l'avant-dernier. Psaume 133, chant des montées, chant des marches hein, de David, selon le recueil de David. Qu'il est bon, qu'il est beau pour des frères d'habiter ensemble. C'est comme le parfum répandu sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. C'est là que le Seigneur assigne la bénédiction, la vie pour toujours. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs. Voilà un psaume de pèlerin. Psaume de pèlerin qui arrive à Jérusalem. Et c'est en cela même qu'il est un psaume de pèlerin que ce psaume nous rejoint. Parce que, frères et sœurs, nous sommes aussi, c'est-à-dire, vous êtes tous des pèlerins. Nous sommes tous des voyageurs en route vers le Seigneur, en route vers le royaume du Seigneur. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais que cette perspective du déplacement, cette perspective du voyage, elle est présente dans toute la Bible. Vous avez remarqué ça ? La Bible est un livre de voyageurs. Les personnages, les différents personnages du salut se déplacent. Ils vont d'un pays à un autre, d'une ville à un autre. Ils connaissent l'exode, le grand, grand déplacement fondateur. Ils connaissent l'exil, un déplacement dans des circonstances de tragédie. Ils connaissent ces déplacements où l'on quitte le terrain où l'on est chez soi, et on devient un étranger. Parce qu'étranger, on peut le devenir dans ses déplacements. On va vers un lieu qui n'est pas le nôtre et nous y sommes étrangers. Et l'histoire du salut, elle commence par cette parole qui est adressée à Abraham. C'est pas « reste ici bien tranquille », c'est « pars de ton pays, de ta famille, de la maison de ton père » vers le pays que je te ferai voir. Hein, de Genèse chapitre 12. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au mot à mot, si on traduisait mot à mot, il est dit « va pour toi ». C'est-à-dire que c'est toi qui as besoin d'aller. Tu vas te trouver en quittant ton pays, en allant, tu ne sais pas où, mais vers le pays que je vais t'indiquer. C'est-à-dire que ce n'est pas une fuite, hein, le voyage croyant n'est pas une fuite, il est une recherche, il est une espérance, il est une attente. Quitter là ce que nous sommes existentiellement. Nous quittons avec les disciples notre barque, nous quittons notre bureau de péage et nous marchons vers le Christ. Nous allons, et nous sommes toujours, à la découverte du Seigneur. Cette notion de déplacement, de voyage, de pèlerinage, quelque part, l'Épître aux Hébreux la souligne avec une autre dimension, quand l'Épître aux Hébreux salue ceux qui ont vu et salué de loin la promesse, reconnaissant publiquement qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Voyageurs pourquoi ? Parce qu'il ne se suffisait pas de vivre dans les circonstances qui leur étaient données, mais qu'ils aspiraient à une patrie supérieure. Ils aspiraient à une patrie scellée. Il y a cette promesse. C'est pourquoi ces gitans, ces romanichels, ces gens en voyage, Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Vous voyez, les voyages bibliques, le voyage dans lequel nous sommes nous-mêmes engagés, ne relève jamais du tourisme, il relève toujours de la vie spirituelle. Le disciple de Jésus quitte la maison de son père, quitte ses habitudes, la sécurité de sa tradition, peut-être la sécurité de ce que peut représenter une réussite sociale. Puis il marche vers la cité de Dieu. Et vous le savez, frères et sœurs, la vie est un long voyage, parfois paisible, joyeux, parfois aussi, on le sait, épuisant, parfois dangereux. Un voyage où, de temps en temps, on s'égare, parce que les routes anciennes ne sont pas les routes bien signalées, bien fléchées, où il n'y avait pas le truc automatique pour connaître sa route. Voilà, non. Parfois, on se trompait. Il arrivait qu'on voyait arriver les gros nuages de l'orage qui allaient nous battre, ou la canicule qui nous écrase. Il y avait ces voyages venus de loin où la solitude nous pèse. Mais aujourd'hui, voici Jérusalem. Prenez Jérusalem dans son sens spirituel. Aujourd'hui, jour de liesse, jour d'accomplissement. Et là, on le sait bien, le souvenir des épreuves va s'estomper. C'est un jour de joie, c'est un jour de victoire. Ici, nous sommes. Et le pèlerin, arrivant au sanctuaire, offre un sacrifice. Que pouvons-nous offrir comme sacrifice ? En vérité, il n'existe aucun sacrifice, aucune offrande véritable que celle du « je ». Qu'est-ce que je peux offrir d'autre que moi-même ? Tout à l'heure, on évoquait l'offrande de l'Église, donc, qui est une dimension de nécessité de la vie en ces temps et en ces lieux. Mais en vérité, ce que je mets dans la boîte ou d'une autre manière ne doit être que ce « je ». Je m'offre moi-même au Seigneur. C'est cela que vit le pèlerin qui arrive à Jérusalem et qui chante ce psaume. S'abandonnant lui-même à Dieu, le pèlerin chante le bienfait éprouvé en retour de la fraternité. Qu'il est beau, qu'il est bon pour des frères d'habiter ensemble. Ce qui réfléchit la vérité et la bonté aussi. La bonté, c'est une qualité que l'on éprouve intérieurement, qui est éprouvée dans le cœur. C'est ce qui fait du bien, c'est ce qui est seul, parce que dans nos chemins de vie, quand nos chemins de vie deviennent, nous semble-t-il, insupportables, on a l'impression qu'on est seul, terriblement seul. On est comme Élie. Élie se croyait tout seul. Et puis voilà que nous découvrons qu'il y en a 7000, alors le chiffre est symbolique, hein, 7000, c'est-à-dire un nombre infini, un nombre incalculable, qui n'ont pas ployé le genou devant Baal. quand la rudesse de nos chemins nous pousse ainsi à penser que, oui, dans ma vie, je suis tout seul, seul avec mes peurs, avec mes égarements, avec mes découragements, là, le Seigneur nous révèle 7000 frères et sœurs, un nombre incalculable de frères et sœurs. Cette fraternité, elle est comparée à l'huile parfumée, une étrange comparaison, peut-être, vous semble-t-il, hein, versée sur la barbe et qui va couler sur le vêtement d'Aaron. En fait, c'est l'huile d'onction des prêtres en Israël. Être ensemble dans la maison du Seigneur, c'est être rendu semblable aux prêtres du Seigneur. Et même dans la lecture qu'on fait le Nouveau Testament, ce n'est pas simplement être rendu semblable, c'est être rendu prêtre ensemble, prêtre du Seigneur. Vous vous rappelez de ce qui est déclaré dans les Écritures, hein, dans l'Épître de Pierre, vous, s'adressant à une communauté croyante, alors à celle-ci, à celle que nous formons aujourd'hui, hein, vous êtes, vous, une lignée choisie. Vous, ici, avenue Édouard Michelin à Clermont, hein, bien de vous, que nous parlons, vous êtes un sacerdoce royal, une nation sainte. Vous êtes un peuple que Dieu s'est acquis, un saint sacerdoce afin d'offrir des sacrifices spirituels agréés de Dieu par Jésus-Christ. Et je vous renvoie, vous pourrez le relire dans la deuxième lettre aux Corinthiens au chapitre 2, Paul évoque l'Église. Nous sommes pour Dieu la bonne odeur du Christ, le parfum du Christ. Nous sommes une fraternité, le texte dit de frères, mais chers sœurs, vous êtes totalement inclus dans cette fraternité, hein, c'est frères et sœurs. Nous sommes une fraternité de prêtres de Jésus-Christ. Nous le sommes ensemble. Ce n'est pas chacun dans son coin, c'est ensemble que nous le sommes. Cette fraternité, elle est encore comparée à la rosée de l'Hermon. Vous connaissez l'Hermon, hein, sur les hauteurs, aux limites là, du Liban, cette haute montagne sur laquelle viennent se verser tous les nuages arrivant de la mer, eh bien, cette eau qui coule va couler jusque sur les montagnes sèches de Sion, les rendant luxuriantes. Voilà ce que fait le fait d'être au bout de notre pèlerinage, frères et sœurs, ensemble dans la maison du Seigneur. La fraternité est cette bénédiction irriguant mon aridité intérieure, irriguant, rafraîchissant la sécheresse de mon âme, faisant de nos vies un jardin fertile, un Éden. Je n'ai que moi à offrir. Toute mon offrande ne peut être que moi, sinon elle n'a aucune valeur. Et voici qu'en retour, je reçois des frères et des sœurs, et qu'avec eux, je suis prêtre du Seigneur. Alors, frères et sœurs, j'ai pleinement conscience de combien cette parole est délicate et difficile, peut-être, à entendre, ou vous renvoie, vous qui êtes une assemblée qui, on ne va pas le cacher, a été meurtrie en sa fraternité, et je comprends bien que vous puissiez dire, mais qu'est-ce que c'est que cette parole qui est énoncée dans ce psaume au regard de ce que nous avons vécu? Et là, je crois qu'il est nécessaire de laisser le psaume nous conduire un peu plus loin. Où est la vérité de cette fraternité? Et elle est énoncée dans la fin de ce court psaume, là. C'est là que le Seigneur commande. Alors, dans la traduction NBS, on a « assigne ». C'est un verbe qui est très fort, hein, qui est utilisé là. C'est là que le Seigneur commande, ordonne la bénédiction, la vie pour toujours. Cette fraternité belle et bonne, elle ne résulte pas de notre bonne volonté. Elle ne résulte pas de nos sentiments, de nos sympathies, et elle ne résulte surtout pas de nos connivences sociales. Cette fraternité, frères et sœurs, permettez-moi de vous rappeler qu'elle est don de Dieu. Cette fraternité, elle est une grâce. Et comme toute grâce, il n'y a rien qui puisse nous être plus précieux. Nous devons la recevoir comme telle, comme une grâce. Nous devons la vivre comme telle, une grâce. Je le rappelle, le verbe qui est utilisé là dans ce dernier verset, c'est vraiment un verbe fort. Le Seigneur décrète, assigne, commande, ordonne. Les traductions, d'ailleurs, vont dans tous ces horizons-là. La bénédiction, et c'est la vie. Ce n'est pas une suggestion, ce n'est pas une invitation, ce n'est pas quelque chose qui nous appartiendrait de construire. Le Seigneur décrète. Ce qui advient accomplit l'ordre du Seigneur. Ça veut dire que quoi que j'en pense, le Seigneur te donne. Toi, tous, chacun. Le Seigneur te donne à moi comme frère et comme sœur. Peut-être que je te trouve super sympathique. Ou peut-être que je me dis, ça ne va pas être facile. Mais ça n'a aucune importance. Aucune importance, aucune valeur. Le Seigneur te donne à moi comme mon frère et ma sœur. Et le plus étonnant encore, c'est que le Seigneur me donne à toi. Ça te plaît ou ça ne te plaît pas, ça ne change rien. Le Seigneur me donne à toi comme frère, comme ton frère. Alors, essayons d'exprimer cela autrement, peut-être au plus proche de notre expérience. Qu'est-ce que pour toi cette Église ? Celle-ci. Ce n'est pas l'Église invisible. L'Église invisible, elle n'existe pas, en fait. Il n'existe que l'Église de Jésus-Christ qui est rendue visible dans certains lieux. Voilà. C'est ici, c'est ce qui nous concerne, nous. Comment la reçois-tu ? Pour le dire autrement, cette fraternité reçue du Christ, ordonnée par lui, comment la recevons-nous ? Alors, je parle de cette Église. Maintenant, cette Église, elle est bien au-dessus de l'état d'association cultuelle 1905 qui aura son assemblée générale en février. Elle est au-dessus de ses statuts, c'est au-dessus de la question de l'appartenance à un réseau, la Fédération des Églises évangéliques baptistes de France. Elle est au-dessus, cette réalité d'Église, au-dessus des choix organisationnels. Elle est au-delà de toutes les questions très à la mode depuis quelques années dans toutes les églises, du projet d'Église. Avant tout cela, dans un premier ordre totalement fondamental, l'ordre qui fonde notre présence ici, notre communion, qu'est-ce que cette Église ? Qu'est-elle véritablement ? Bien, frères et sœurs, cette Église-ci, unissant des personnes aussi diverses, ça a été dit tout à l'heure dans la prière. Moi, j'ai bien entendu, mais ça a été dit dans une de nos prières ici, au culte. Cette Église qui unit des personnes aussi diverses que nous le sommes, cette Église est grâce divine. Elle nous est donnée par Dieu. Cette communauté de frères et de sœurs dont Jésus-Christ est l'ami, le frère, le Seigneur, est une bénédiction que Dieu nous accorde. La bénédiction est la bénédiction de la fraternité qui est formée au commandement du Seigneur. C'est pourquoi ce qui fait l'Église, ce n'est pas son AG. L'AG est fondamental et essentiel dans l'ordre de l'existence de nos communautés croyantes dans cette société, avec les lois du pays, avec certaines nécessités. Mais ce n'est pas ça l'Église. Ce qui fait l'Église, ce n'est pas les statuts 1905, c'est le partage fraternel de la parole divine. Ce qui fait l'Église, c'est le partage fraternel du repas du Seigneur. Là est l'Église, dans ceux qui partagent le pain et le vin du repas institué par le Seigneur. Dans ceux qui écoutent la parole, qui la partagent, qui la vivent. Ce qui fait l'Église, c'est ce qui nous vient de Dieu, c'est ce qui nous vient de sa grâce. Alors que l'Église, cette Église, soit pour moi une grâce divine, ça me contraint Ça veut dire que moi, mes préférences, mes projets, mes rêves, le fait que je préférerais que cette église soit comme ceci plutôt que comme cela, hein, ce que je voudrais qu'elle soit à mes propres yeux, si j'avais une baguette magique pour la transformer, elle deviendrait comme ceci et comme cela, tout ça, c'est légitime, hein, il est légitime d'avoir des désirs, des pensées, des projets, on en vit un peu, mais c'est d'un ordre second. C'est d'un ordre second. Tout ce qui, dans mes sentiments, mes pensées, mes décisions, obscurcirait, amoindrirait la joie de recevoir cette grâce qu'est l'Église. Joie en laquelle Dieu me bénit. Pour le dire autrement, toutes mes préférences, toute mon ecclésiologie, est-ce que cette Église devrait être plus ceci, plus cela, tout ça pèse de bien peu, ne doit peser que de très peu. Toutes ces prétentions par lesquelles, on le sait bien, on est toujours tenté de dénoncer les tâches et les rites de cette Église. Parce que cette Église-ci, comme toutes les Églises dont moi j'ai été le pasteur, ou toutes les Églises que j'ai connues, elle a des tâches et des rides. Et j'ai quelquefois tendance à les voir, à bien les regarder, voire à les dénoncer. Mais voilà que l'Écriture, je vous renvoie à l'Épître aux Éphésiens, nous dit que Christ, son époux, cette Église, il l'a fait paraître devant lui sans tache ni ride. Tache ni ride, c'est-à-dire tous nos travers, nos défauts, nos faiblesses, nos limites, nos fragilités, nos inconstances, tout cela ne compte pas pour le Christ qui accueille son Église, qui la présente à lui dans la richesse et la puissance de son amour. Dernière chose, pensant à cela, l'Église, don de Dieu, don, manifestation de sa grâce pour chacun de nous, peut-être que ça vous rappelle une expression qui probablement vous a surpris, une expression qu'on trouve au moins deux fois dans l'Évangile selon Jean, où il est question d'un disciple que Jésus aimait. Vous voyez, ce que ça vous dit quelque chose, ça ? Le disciple que Jésus aimait, puis là on se dit, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Le disciple que Jésus aimait et les autres, alors ? Est-ce qu'il y en aimait un plus que les autres ? Est-ce qu'il y avait une petite préférence ? Alors ce disciple, on hésite, est-ce que c'est Jean ? Est-ce que c'est Lazare ? Bon, on hésite, mais quid des autres ? Alors, c'est intéressant parce que moi, je me suis souvent, longtemps, très longtemps, interrogé sur ce texte. Que ça peut bien vouloir dire qu'il y avait un disciple dont on reconnaissait qu'il était celui que Jésus aimait. Moi, si j'avais été un autre disciple, je me serais dit quand même, qu'est-ce que c'est que ce Messie qui semble préférer celui-ci à moi ? Pas tout à fait ça. En son humanité, qui est notre humanité ordinaire, Jésus éprouvait donc des sympathies plus spontanées. Peut-être ce qu'on appelle dans le langage courant, nous, des atomes crochus. Il y a des gens, vous les rencontrez, et vous sentez tout de suite qu'il y a des atomes crochus. Ah, voilà, ça va fonctionner. Puis d'autres, il va peut-être falloir aller cheminer un peu plus ensemble. Mais le fait que Jésus éprouvait, entre guillemets, des atomes crochus, je vous rappelle que ça n'a strictement rien changé à son engagement envers tous ses apôtres. Plus que ça, on peut même estimer que Jésus a confié un ministère central, non pas aux disciples qu'il aimait, entre guillemets, mais qu'il a confié un ministère central à celui qui était, me semble-t-il, psychologiquement le plus différent de lui. Je pense à Pierre. Pierre, il est très différent de Jésus. Mais c'est bien à Pierre qu'a été confié un ministère particulier. Jésus, en vérité, a veillé sur tous les apôtres. Vous connaissez sa prière, hein ? Lorsque j'étais avec eux, donc avec eux tous, je les gardais en son nom que tu m'as donné, en ton nom que tu m'as donné. Je les ai protégés et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, en sorte que l'Écriture soit accomplie. Je crois que ça veut dire, frères et sœurs, que les sympathies particulières, les affinités, elles n'apparaissent pas là. dans le ministère de Jésus, dans sa vie au milieu des siens. Elles n'apparaissent jamais comme cause d'un choix, d'une orientation, d'un privilège de l'un par rapport à l'autre. Alors qu'il y ait dans la communauté chrétienne, dans toute communauté chrétienne, qu'il y ait des sympathies, des affinités, des relations plus difficiles, des relations plus faciles à construire, ça relève de notre nature humaine. Puis, parfois, il est normal, il est bien qu'il en soit ainsi. Mais cela aussi doit demeurer peu de choses au regard de la joie reconnaissante de recevoir la fraternité, toute la fraternité, de recevoir la grâce qu'est l'Église, de la recevoir comme bénédiction du Seigneur, comme expérience spirituelle de vie. Regardez autour de vous, tournez un peu la tête là, sur le côté, devant, derrière. Qui que ce soit que vous voyez ici, il est la grâce de Dieu pour vous. Qui que ce soit que vous regardiez, où que porte votre regard, n'hésitez pas à tourner la tête. Voilà, c'est un frère, c'est une sœur que Dieu te donne. Il est sa bénédiction pour toi. Si parfois cette fraternité est tendue, si parfois, à cause de notre humanité, elle génère des tensions, alors apprenons à considérer ces tensions comme un encouragement du Seigneur à élever notre foi. Non pas à se laisser abaisser dans les méandres, les marais de la nature humaine, mais à l'élever. C'est l'apôtre Pierre qui dit encore, mettez-vous chacun dans sa singularité, chacun selon le don qu'il a reçu au service les uns des autres, comme des bons administrateurs, et là il y a une expression magnifique, littéralement on devrait traduire, de la grâce multicolore. Souvent les traductions disent la grâce variée, diverse, le terme grec ça, c'est multicolore, la grâce multicolore reçue de Dieu. La grâce de Dieu est multicolore, c'est-à-dire que chacun de nous la ressent, la reçoit, la transmet, la fait vivre dans des colorations différentes. J'ai une photo que j'ai faite à Clermont, d'ailleurs, je ne sais plus dans quelle église de Clermont, mais d'une projection au sol de la lumière à travers des vitraux, qui me semble une espèce de représentation de cette grâce diverse. L'image qui se forme par la diversité des couleurs qui s'entremêlent. Voilà ce qu'est l'Église. Alors quand l'épreuve arrive, quand de temps à autre, hélas, notre humanité reprend le dessus, ne nous le laissons pas attirer vers le marais de nos caractères, de nos personnalités. Je sais c'est de quoi je parle, croyez-moi. Mais que ce soit l'occasion d'aller plus haut, de nous laisser élever plus haut. Quelle expérience que la découverte de cette grâce multicolore. Vivons ainsi cette Église de Clermont, cette Église de l'avenue... Je dirais Édouard Herriot, ça c'est mon côté lyonnais, Édouard Michelin à Clermont, cette église que Dieu a ordonnée pour nous. Bénédiction de vie à jamais. Sinon, ce fameux commandement qu'on aime bien citer, aimez-vous les uns les autres. Sinon, ce commandement reposerait que sur nos propres efforts. Et croyez-moi, il deviendrait invivable. Je ne suis pas capable d'aimer l'autre comme moi-même si je ne reconnais pas d'abord qu'en Dieu, dans l'autre, dans mon frère, dans ma sœur, Dieu m'accorde sa grâce. C'est là que le Seigneur a décidé de bénir, c'est la vie pour toujours. Amen.